Complément à la délibération du 13 juin 2017 portant sur l'acquisition foncière au consort Vareil. Je laisse la parole à François Roubi.
Bonsoir. Alors, plus la délibération du 13 juin 2017 portant sur l'acquisition du bien immobilier appartenant au consort Vareil, situé place Bellevue, cadastré section AD numéro 106. Moyennant le prix de 50 000 euros. Considérant que les consorts Vareil demandent qu'ils soient adjoints à cette vente des parcelles cadastrées OD 180 et OD 161, dont ils sont propriétaires, et ce sans modification du prix fixé initialement. Madame le maire propose d'accéder à la demande du consort Vareil. Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte de compléter la délibération du 13 juin 2017 relative à l'acquisition foncière du bien immobilier appartenant au consort Vareil, situé place Bellevue, cadastré section AD numéro 106, moyennant le prix de 50 000 euros, en incluant dans cette vente les parcelles cadastrées OD 180 et OD 175 dont ils sont propriétaires et sans modification du prix fixé initialement. Autorise le maire à signer les documents afférents et à la présente délibération.
Est-ce qu'il y a des questions particulières?
J'appelle au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Cession d'une bande de terrain 6, place Bérégovois au consort Berger. Je laisse la parole à Bernard Reynaud.
Bonsoir. La commune dispose d'un parking public de 11 places le long de l'avenue Mercoirol, installé sur la place Bérégovois. Ce parking est classé dans le domaine public. La commune s'est rendue propriétaire de cet espace en plusieurs temps. D'abord par acte de vente établi par voie d'acte administratif du 30 septembre 1987, puis par acte authentique du 20 juin 2002, établi par maître Didier Chazalon, notaire à l'hôtel. En effet, M. Berger Henri et Mme Berger Lucette, son épouse, étaient alors propriétaires d'un tenement immobilier 6 avenue Mercoirol. En 1987, ils ont consenti à céder une bande de terrain de 262 mètres carrés en bordure de la voie au prix d'un franc symbolique. Cette vente précise, la limite de propriété étant à l'ouest du mur de soutènement dont la commune propriétaire assurera l'entretien. La paillasse réalisée lors de l'aménagement du parking est réservée à l'accès des vendeurs à leur parcelle de terrain restante. En 2002, ils ont consenti à céder à la commune une bande de terrain de 27 mètres carrés à titre gratuit. L'acte de cession précise, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune de Cruas du 19 décembre 2000, annexée au présent, la commune s'est engagée à réaliser une balustrade le long de la propriété de M. et Mme Berger. L'acquisition de 1987 a permis de créer un parking public, celle de 2002 de créer un escalier reliant l'avenue Mercoirol à la rue Constanvol. Par courrier du 11 juin 2021, M. Berger Jean-Luc, désormais propriétaire de la parcelle cadastrée section AD numéro 611, issu de la division du terrain initial de ses parents, sollicite la cession d'une bande de terrain de 36 mètres carrés, issu du parking pour un usage personnel et privatif à ses frais. Aujourd'hui, un accès piéton prenant la forme d'un escalier donnant sur le parking permet aux occupants d'accéder à leur logement. Cet escalier se trouve sur le domaine public. En effet, l'acte de division parcellaire préalable à la vente de 1987 n'a manifestement pas considéré cet élément, qui fait pourtant partie intégrale de la propriété Berger. De plus, un espace situé en bordure du dit escalier, pourtant classé dans le domaine public au cadastre, est condamné par 4 potelés. Cet espace n'est donc pas du domaine public par destination. Il peut être cédé sans procédure de déclassement. Afin de mettre en correspondance le cadastre avec l'usage réel, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2241-1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L3221-1, considérant l'intérêt de la commune à régulariser l'usage privatif de l'escalier, desservant la propriété des consorts Berger, propriétaire de la parcelle cadastrée AD numéro 634, 6 place Pérégovois. Considérant l'inutilité pour la commune de l'espace actuellement condamné par des poteries, considérant l'avis des domaines, DS numéro 877-45-96, si annexé, en date du 24 mai 2022, estimant la valeur vénale du tenement immobilier à 280 euros. précisant qu'une cession à l'euro symbolique n'appelle pas d'observation particulière de la part du pôle d'évaluation domaniale. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le projet de vente de la vente de terrain de 25 mètres carrés au prix de l'euro symbolique, précise que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, autorise Madame le maire à signer tout acte et pièce afférente à ce dossier et à constituer toute servitude qui pourrait être formée sur le bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières? Tout l'historique est clair.
C'est un résumé.
Oui. Oui, on a repris les dates les plus importantes. S'il n'y a pas de questions, j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. 5 abstentions. Vote à la majorité. Je vous en remercie. Garantie d'emprunt sollicitée par l'OGEC pour l'extension de l'école des Roches. Je laisse la lecture à Émilie Devaux et Stéphanie, il faut que tu sortes. S'il te plaît.
On va préparer le repas.
Madame le maire expose avoir été informée par le président de l'OGEC, organisme de gestion de l'enseignement catholique, d'un projet d'aménagement et d'extension des locaux de l'école des Roches. Ce projet comprend la création d'un bâtiment de plein pied comportant deux salles de classe, des sanitaires clos et un espace de rangement, tout en modifiant l'accès à l'école par le sentier Coursal. L'objectif de ce projet n'est pas de construire de nouvelles classes, mais de les déplacer. Le coût du projet est estimé à 460 000 euros TTC, qui seront financés par l'OGEC, 80 000 euros sur fonds propres et 380 000 euros par emprunt. L'OGEC sollicite la commune de Cluas afin qu'elle lui accorde sa garantie pour le remboursement de l'emprunt qu'elle sera amenée à contracter pour financer ce projet de réhabilitation. Les garanties d'emprunt sont encadrées par quatre règles prudentielles cumulatives visant à limiter les risques, à savoir, la commune ne peut garantir plus de 50% du montant total des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal, le montant total des annuités d'emprunt garantie ou cautionnée à échoir au cours de l'exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le débiteur ne peut disposer d'une couverture excédant en termes d'annuités le dixième de la capacité à garantir de la commune, sauf pour les logements sociaux. La quotité maximale que les collectivités peuvent garantir sur un même emprunt est fixée à 50%. Un emprunt ne peut pas être totalement garanti par les collectivités. Toutefois, la limite de quotité n'est pas applicable aux garanties d'emprunt accordées par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du CGI, dont les organismes à caractère éducatif. Dans ce cas, les collectivités peuvent garantir en totalité leurs emprunts. Il est proposé au conseil municipal de donner un accord de principe à l'OGEC par lequel la commune de Cluas se portera garant de l'emprunt contracté par cet organisme pour ce projet d'aménagement et d'extension de l'école des Roches. Cette garantie portera sur 50% du prêt de 380 euros maximum qui sera souscrit par l'OGEC. Qui sera souscrit par l'OGEC, soit un montant total garanti par la commune de 190 000 euros maximum. Lorsque l'OGEC aura formalisé son offre de prêt auprès d'un établissement bancaire, le conseil municipal délibérera à nouveau pour contractualiser les modalités de cette garantie de l'emprunt. Le conseil municipal, après avoir délibéré, donne un accord de principe à l'OGEC sur la garantie de l'emprunt, 50% maximum sur un montant maximum de 380 000 euros empruntés, soit 190 000 euros, à souscrire par l'OGEC auprès d'un établissement bancaire pour le projet d'aménagement et d'extension de l'école privée des Roches. Charge Madame le maire des démarches et signatures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Vous aurez compris que sans cette délibération sur cette garantie, l'OGEC ne peut pas avoir d'offre de prêt définitive. Bien sûr, dans un second temps, les modalités seront définies pour sécuriser la collectivité. Donc nous aurons plus de réponses à vous apporter une fois que l'OGEC aura un retour de l'offre ferme de prêt par le Crédit Agricole. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Donc Stéphanie est sortie parce qu'elle ne peut pas participer au vote puisque le président de l'OGEC, c'est M. Thierry Cassard, son conjoint. Je tenais à l'expliquer quand même.
Bien, donc nous, on a forcément sur ce sujet-là une remarque. Dans le cas où, effectivement, on serait obligé de mettre la main à la poche pour des problèmes financiers au sein de l'OGEC, nous considérons que ce n'est pas au contribuable croatien de garantir cet emprunt qui est réalisé par une école privée, même si cette école privée est en contrat d'association avec la mairie.
Il faut savoir que beaucoup de communes se portent garants hein, pour des établissements privés. Sur le département de l'Ardèche, Annonay l'a fait, Le Teil l'a fait. Il y a beaucoup d'établissements, donc on s'est rapproché justement de différents organismes pour sécuriser les choses. Et comme je vous l'ai dit, dans un second temps, nous vous apporterons les informations sur les modalités de cette garantie. Par contre, voilà, vous avez les montants. Donc, par exemple, pour le TEI, c'est 3,7 millions. Donc, c'est toujours à hauteur de 50%. Donc, le montant du prêt de garantie est de 1,850 millions. Voilà. Alors, juste une petite précision, puisque le président de l'OGEC nous a présenté le projet. Il y a quand même eu un premier travail qui a été fait, une ébauche par un architecte qui a été faite en septembre 2015. Donc, ce n'est pas un projet hein, qui s'est fait rapidement. Il a été mûrement réfléchi. Et surtout, l'objectif de ce projet, ce n'est pas de reconstruire des classes. On est bien d'accord, mais bien de les déplacer pour répondre à des aspects d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène, de qualité de vie à l'école. Donc, il y a un peu plus de 110 élèves par an. Donc, de répondre aussi à cette garantie, c'est permettre une scolarité dans des conditions correctes pour ces enfants. Donc c'est pour ça que nous sommes partis dans la démarche d'accepter cette garantie, mais pas n'importe quel prix, hein, comme vous l'avez dit. Donc, et d'ailleurs, c'est très bien précisé dans la délibération, puisque c'est énormément et c'est très bien cadré. Donc on vous apportera les éléments. Donc le projet vous sera peut-être présenté un peu plus en détail, mais vous avez une partie d'extension sur le préau, donc de 2 places supplémentaires. Bon, comme ça, je ne sais pas si Stéphanie, Sandrine, est-ce que tu peux faire voir peut-être, c'est sur le schéma d'en bas, parce que c'est clair. Je ne sais pas si on voit aussi, hein. Oui, voilà, avec la photo, vous le voyez un peu mieux. Donc, c'est l'extension, vous savez, qui rejoint la partie haute, où il y a la descente d'escalier, pour ceux qui connaissent l'école privée, voilà, et qui va en continuité. Et bien, la place des WC actuelle. Et du préau.
Parce qu'il y avait des toilettes
donc les classes qui étaient à sécuriser, c'était les 2 classes qui étaient à l'étage, parce que donc, pour une évacuation, on avait fait des essais pompiers, c'était quand même assez limité. Normalement, il aurait dû y avoir qu'une seule classe en haut et pas 2. Donc toutes les classes qui sont en haut doivent être descendues, puisque là c'est pareil, il n'y a pas possibilité non plus de mettre un ascenseur. Ensuite, là aussi, hein, pour des questions d'accessibilité handicap. Et à l'extérieur, donc en hiver, il y avait 4 toilettes directement au froid. Donc, besoin aussi de les fermer et d'avoir un préau un peu plus couvert. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais appeler au vote. Qui est contre ? 5 contre. Qui s'abstient ? Vote à la majorité, je vous en remercie. Si quelqu'un veut appeler Stéphanie. Alors, réorganisation des services techniques et modification du tableau des effectifs. Lecture par Bernard Hénon, mais je vais peut-être. Alors, en préambule, il va y avoir 3 délibérations concernant les ressources humaines. Donc, en préambule de ces 3 délibérations, je vous informe que depuis le 1er mars 2022, Le Code général de la fonction publique est entré en vigueur. Celui-ci regroupe l'ensemble des dispositions statutaires législatives applicables à la fonction publique. En premier lieu, je vais soumettre à approbation la nouvelle organisation des services techniques ainsi que la création des postes correspondants. Je vous précise que lors de la séance du 7 avril 2022, le comité technique placé auprès du CDG 07 a émis un avis favorable à l'unanimité. Je vais faire un rappel du contexte de la réorganisation des services techniques. Il y a eu un premier audit et groupe de travail réalisé en 2018-2019 par l'ancienne municipalité. En 2018, un diagnostic organisationnel des services techniques a été commandé au cabinet JMA-RH. Il relève les problématiques suivantes fondamentalement, managériales. Il a mis en avant les problématiques situation de crise, relationnelle détériorée, difficultés vécues ou ressenties pèsent, non-communication, problématiques de management, d'autonomie et de reconnaissance, absentéisme de 200 jours par an, une organisation qui interroge le cabinet JMA, car un seul agent est le point d'entrée de toute demande. La fonction management n'a pas suivi les évolutions des besoins et des attentes, des situations relationnelles qui se sont dégradées, qui n'ont pas été complètement réglées, un décalage fort sur le poste de responsable d'équipe ST entre le besoin de management et l'organisation. L'audit a proposé de travailler la fonction managériale et rechercher une transition entre le fonctionnement actuel et futur. Clarifier les rôles des acteurs intervenant au ST et travailler sur les valeurs et les attitudes pour toute la mairie. La proposition du plan d'action pour le premier semestre 2019. Aucun changement organisationnel n'est intervenu. Néanmoins, une proposition de plan d'action pour le premier semestre 2019 a été élaborée. Cette proposition se concentre sur le positionnement de la DGS. Pour les services techniques, elle propose un point hebdomadaire DGS-DST en excluant le poste de responsable des ateliers municipaux. Rien n'est prévu pour mieux organiser les rapports entre responsables des ateliers municipaux et les agents du service technique. À l'issue de cet audit, les agents se sont placés dans l'attente d'un changement en 2020 à l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. Ça a renforcé leur attente. Elle a pu y répondre à l'arrivée de la nouvelle DST en septembre 2021. La nouvelle DST, c'est Gwendoline Pellet qui est présente ce soir. Un deuxième audit a été réalisé entre le 6 septembre 2021 et le 31 mars 2022 par la nouvelle DST. L'audit s'est basé sur des entretiens individuels avec chaque agent, une fiche individuelle de recueil d'avis et suggestions de chaque agent, observation du mode de fonctionnement, étude des outils de suivi et d'organisation du service. Cet audit a révélé les mêmes difficultés que je vous ai citées précédemment, interrogeant la fonction managériale dans l'organisation en place en inadéquation avec les besoins et les attentes des élus et des acteurs. Plus détaillé, il relève l'ampleur des dysfonctionnements pour des éléments de base. Les dotations en EPI et les accès à des EPI appropriés par les agents. L'accès au matériel de travail, l'adéquation du matériel de travail aux tâches à effectuer, la sécurité des véhicules, le soin porté au matériel communal, le contingent d'heures supplémentaires. Les motifs de la réorganisation des services techniques. La municipalité a pour ambition d'assurer une gestion maîtrisée de ses dépenses. Pour cela, il est nécessaire de développer une comptabilité de type analytique au niveau des services et d'assurer, pour ce faire, un suivi des moyens financiers et humains mis au service des différentes actions entreprises. L'organisation actuelle des services techniques, très concentrée sur le poste de responsable des ateliers municipaux, ne permet pas d'assurer la lisibilité qualité attendue. Il convient donc d'organiser le service différemment. C'est pour cela que je vais laisser la parole à la directrice des services techniques pour vous expliquer l'organigramme qui a été validé, je le rappelle, à l'unanimité par le comité technique du CDG 07. À toi, Gwendoline.
Merci. Ça marche. Merci, Madame le Maire. Effectivement, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être exposé, quand je suis arrivée en septembre 2021, ça a été l'une de mes premières missions et l'une des priorités, c'était de réorganiser le service technique. Et en réalité, j'ai vite vu que c'était effectivement nécessaire. Il y avait une grande disparité de charges de travail entre les agents, avec un responsable des ateliers municipaux surchargé, qui prenait toutes les demandes entrantes d'où qu'elles venaient, et des agents qui, eux, étaient plus ou moins désœuvrés selon les uns ou les autres. Il y avait effectivement ce premier audit de 2018-2019 qu'on a retrouvé dans les archives, qui faisait apparaître un mal-être prononcé parmi les agents des services techniques, parmi la plupart des agents des services techniques. Et tous, lorsque je les ai reçus à plusieurs reprises, ont réaffirmé avec force leur volonté de changement. Donc l'objectif premier, en fait, ça a surtout été d'apaiser les conditions de travail de l'ensemble des agents, moi, si vous voulez, au niveau managérial. En accord avec la municipalité, donc on a souhaité développer un mode de management transversal qui met en valeur les compétences des agents qui, jusqu'alors, n'étaient pas mises à profit. Donc l'idée, c'est de leur attribuer des responsabilités bien identifiées, reconnues, officielles, identifiées dans la fiche de poste et communiquées à l'ensemble des intervenants pour que chacun sache à qui s'adresser efficacement. Et donner aux agents l'accès à leur environnement professionnel. Quand je suis arrivée, j'ai constaté que les agents qui travaillaient en voirie, en bâtiment, ne connaissaient pas les entreprises, n'avaient pas moyen de les contacter. Voilà, tout reposait encore et de façon tout à fait déraisonnée sur une seule personne qui ne pouvait plus gérer les choses. C'était trop énorme. Donc, c'est pas un mode de fonctionnement adapté à la charge de travail qui est celle des services techniques de CRUAS. Donc, la proposition, c'est de changer de mode de gestion et de travailler davantage en mode projet qu'en mode purement hiérarchique, en fait. Donc, favoriser le travail d'équipe. La mise en place de cette nouvelle organisation génère ponctuellement un surcroît de travail et managérial, évidemment, puisqu'il faut organiser les choses. Comme le disait Madame le Maire tout à l'heure, l'audit portait sur une observation des outils de suivi et d'organisation du service, et il se trouve que c'est fortement lacunaire, voire totalement absent en termes de gestion. Donc il y a beaucoup de travail pour apprendre à gérer les choses, à savoir, à bien comprendre ce qu'on fait et à le suivre dans le temps pour avoir une gestion maîtrisée. Voilà ce que doit faire toute collectivité. Donc il est apparu opportun, en raison également d'un programme de travaux ambitieux, de créer un poste d'adjoint à la directrice des services techniques pour assurer cette partie management de terrain et remettre un service en ordre de marche fonctionnel. Des missions nouvelles sont également apparues. Donc, on parlait tout à l'heure des EPI, c'était quelque chose qui était totalement mis de côté. Les agents travaillaient avec des EPI périmés. Ou bien n'accédaient pas à leur outil de travail, tout simplement parce qu'il était verrouillé, sous clé, etc. Donc vraiment un contexte très très lourd qui est ressorti et au vu duquel on enfin, ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Quoi. C'est obligatoire de faire quelque chose. Le but à avouer, c'est de réduire les dépenses de fonctionnement tout en augmentant la qualité du service pour les EPI. C'est le travail qui a déjà été fait au premier semestre 2022, avec un changement de système, l'entretien des véhicules qui sera géré par une seule personne, bien identifiée, etc. Et pour toutes les thématiques gérées par les services techniques, il y aura une personne qui sera identifiée comme responsable et à qui on pourra s'adresser pour toutes ces demandes. Ce qui permettra de soulager fortement l'ancien responsable des ateliers municipaux. Il y a aussi le travail sur les jardins familiaux, par exemple, qui a été engagé aussi cette année. Le service espace vert, parallèlement, a subi plusieurs départs en retraite et il doit être restructuré et ses compétences internes renforcées. En effet, la commune ambitionne de conserver la distinction de fleurs, des villes et villages fleuris, dans un premier temps. Et la composition actuelle du service ne permet pas de répondre à cet objectif. Il y a en effet un seul agent du service technique qui dispose d'une formation initiale en espace vert. C'est vraiment insuffisant pour une commune qui a une distinction de fleurs. Donc ce service doit être professionnalisé dans les recrutements des agents et par la création d'un poste de service espace vert. Il y a aussi au sein du service espace vert des problématiques de sécurité, d'adaptation des outils à la difficulté du travail et aussi d'adaptation du milieu aux contraintes physiques de travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Concernant l'organigramme qui est projeté actuellement, donc il se veut le plus transversal possible. Évidemment, il y a de l'encadrement intermédiaire sans lequel la machine ne peut pas fonctionner et on le voit actuellement parce que ces postes-là n'existent pas et ne sont pas encore pourvus et c'est effectivement très difficile de pouvoir faire cohabiter la partie projet de la gestion quotidienne dans une commune où le tissu associatif est si développé. Vous avez l'adjoint au directeur, à la directrice des services techniques qui assurera la partie management opérationnelle et fonctionnelle des services techniques qui gérera donc un ensemble de personnes et de postes aux responsabilités bien identifiées. Donc on aura un électricien qui aura en charge tout ce qui est électrique, ce qui était le cas avant, mais cette personne a quitté la collectivité. Un responsable bâtiment, voirie et réseaux divers. Un responsable maintenance courante des équipements. Un responsable manifestation et information à la population. Un petit service propreté urbaine sans responsable et composé de deux agents, l'un responsable proximité chargé d'assurer la propreté des rues à pied et l'autre chargé d'assurer la propreté des rues avec la machine et responsable également des EPI pour tout le service. Le service espace vert, donc là aussi, les responsabilités ont été attribuées en fonction des affinités des uns et des autres et de ce qui avait été partagé au moment de l'audit. Donc un responsable irrigation et flotte de véhicules, un responsable débroussaillage manuel, un responsable arbre, accotement et jardins familiaux, un responsable du matériel espace vert, ce qui n'était pas le cas avant, donc il y en avait beaucoup de pannes qui ne pouvaient pas être gérées. Un responsable fleurissement, un responsable tonte et massif et un responsable haies, ce qui permet de balayer l'ensemble des actions en matière d'espace vert et de pouvoir s'adresser à quelqu'un dans ces différents domaines. Il est apparu également opportun de raccrocher officiellement deux agents qui assurent l'entretien des locaux occupés par les associations ou le gymnase, etc., aux services techniques et de les placer sous la responsabilité d'un chef de service gestion des locaux qui assure aussi la gestion de la salle des fêtes. Donc c'est une proposition d'organisation. Donc voilà pour le service technique. On a rapproché aussi l'urbanisme au service technique. Aujourd'hui, auparavant, jusqu'à maintenant, l'urbanisme était rattaché directement à la direction générale des services. Et donc les interactions avec la voirie, toutes les problématiques en fait gérées par les réseaux, par les services techniques, ont fait que le choix s'est porté sur un rattachement de l'urbanisme au service technique. Et donc on a eu la chance aussi de disposer d'un poste de secrétaire du fait de l'opportunité de quelqu'un qui est rentré de congé longue maladie. Et ce que j'oubliais de préciser, au niveau du poste urbanisme, donc c'est quelqu'un qui assurera aussi l'assistance administrative du service technique, puisque les agents techniques sont compétents en matière de technique. Mais par contre, au niveau administratif, ben, forcément, ça pêche un peu, on ne peut pas être bon partout. Donc il y a besoin, pour tout ce qui est devis, etc., relations avec les entreprises, d'avoir une assistance administrative. Donc c'est l'organisation que j'ai proposée à monsieur le DGS et madame le maire qui a été validée. Aucune organisation n'est parfaite, elle aura des travers, elle se veut évolutive en fonction des difficultés auxquelles on sera confronté. Donc elle n'est pas figée. Pour autant, en l'état, elle a été validée voilà, par le centre de gestion. Et c'est comme tel qu'on vous propose, qu'on vous la présente aujourd'hui.
Merci beaucoup, Gwendoline, pour cette présentation. Et je voudrais dire que c'est vrai qu'il y avait, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y avait vraiment une grosse attente de la part des agents du service technique. Il est vrai que l'on est en place depuis 2020 avec le Covid. Et puis des départs en retraite que nous, on ne pouvait pas anticiper. Très clairement, on a connu quelques difficultés. Aujourd'hui, grâce à ton arrivée en septembre l'année dernière, il y a vraiment un très gros travail qui a été effectué et je te remercie au nom de tout le conseil municipal parce qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais en tout cas, tu as le retour des agents, puisqu'ils te remercient pour la reconnaissance et le travail que tu as fait vraiment en profondeur. Donc il faut le dire, parce que pour eux, de pouvoir s'exprimer et puis d'avoir une reconnaissance en termes d'une comme tu as dit, hein, on a un organigramme transversal, mais parce qu'ils ont envie aussi d'être responsables de leur poste de travail. Parce qu'ils connaissent et ils sont force en plus, force de proposition. Et tout ce qui est EPI et tout ce qui a été mis en avant, ça a été travaillé en concertation, très clairement. Donc je pense que c'est un point important. Certes, le sens du service public est important, mais si les agents ne suivent pas, et ben derrière, on sait très bien que les services ne peuvent pas être mis en place en toute sérénité. Et on ressent vraiment une grande motivation de la part des agents du service technique. Et ça, c'est important de le dire. Malgré la difficulté, puisque vous allez voir les postes qui vont être créés. C'est vrai qu'on a eu pas mal de départs, un départ pour créer son entreprise, deux départs en retraite, plus un départ pour une évolution de carrière professionnelle. Donc c'est vrai qu'on a perdu aussi de l'expérience et de la connaissance sur la collectivité. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut qu'on arrive justement à retrouver et avoir un fonctionnement beaucoup plus serein. On va passer à la délibération. Vous voulez poser des questions? Il y a des questions particulières? Non. Donc nous allons passer à la délibération et je vais laisser la parole à Bernard Reynaud, adjoint en charge du personnel.
Madame le maire, rappelle à l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Conformément à L313-1 du Code général de la fonction publique. Considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d'en déterminer le temps de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois et d'indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique. Vu le Code général de la fonction publique, considérant la nécessité de mettre en place rapidement la nouvelle organisation des services techniques et de créer les emplois correspondants, tels qu'exposés précédemment. Madame le maire propose donc à l'Assemblée de valider la nouvelle organisation des services techniques et la création des postes suivants. Service technique, adjoint à la directrice des services techniques, avec comme grade technicien minimum et grade maxi technicien principal de première classe, 35 heures. Service technique, chef du service espace vert, grade minimum adjoint technique principal de première classe, grade maxi technicien, 35 heures. Service technique, jardinier polyvalent, responsable et avec comme grade minimum adjoint technique, grade maxi adjoint technique principal de première classe, 35 heures. Service technique, jardinier polyvalent, responsable tonte, grade mini adjoint technique, adjoint technique principal de première classe comme grade maximum, durée hebdomadaire du poste, 35 heures. Service technique, emploi électricien, grade adjoint technique, grade maxi, adjoint technique principal de première classe, 35 heures. Ces emplois permanents pourront éventuellement être pourvus par des agents contractuels en vertu d'un contrat à durée déterminée sur le fondement des articles L332-14 et L332-8 du Code général de la fonction publique. La rémunération des agents contractuels sera fixée compte tenu de la nature des fonctions exercées par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la nouvelle organisation des services techniques telle que présentée aux membres du Conseil municipal. Approuve la création des emplois tels que proposés ci-dessus à compter du 20 juin 2022. Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont inscrits au budget principal de la commune.
S'il n'y a pas de questions, j'appelle au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Donc vote à la majorité.